Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une émission spéciale avec un rebond des marchés assez conséquent ce jour au moment où j'enregistre cette émission. Nous sommes le jeudi 30 juillet 2026 et nous avons un énorme rebond du côté de la tech, mais plus spécifiquement du côté des semi-conducteurs avec cet indice qui reprend aujourd'hui 8%. Et vous allez le voir dans un instant, des actions liées au domaine qui rebondissent de 20 à 30%. C'est complètement dingue. Donc pour le SOX avec 2X comme d'habitude, l'indice iShares, on a rebondi désormais d'environ 8% et l'action continue de se passer également du côté du Nasdaq qui essaie de recouvrer sa moyenne mobile à 20 semaines après être passé donc hier à 27 192. On a un très gros rebond. Ceci étant dit, pour ceux qui ont l'habitude un petit peu de ce genre de pattern, est-ce que ça ne serait pas le fameux rebond du chat mort avant de s'enfoncer un petit peu plus? En tout cas, pour l'instant, on en est là. Quand on regarde ce qui s'est passé également précédemment au niveau des correction du Nasdaq, c'est vrai que souvent on trouve de la vélocité entre la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50. De temps en temps, comme au moment des tarifs de Trump, on revient travailler proche de la moyenne mobile 200 semaine, mais aujourd'hui elle est très très loin, autour de 19 500 points. Il faudrait vraiment qu'il y ait un crack de marché pour revenir sur ces zones-là. Côté Europe, plus 2% quasiment pour l'Eurostoxx 50, tandis que le S&P 500 est à 7 400. On voit qu'on a malgré tout, quand on sort de la tech et des semi-conducteurs, de l'IA, moins de vélocité autour de tout ça. Donc on essaie de sauver un petit peu les meubles, mais le tout avec des oscillateurs qui sont en train de croiser plutôt baissier. Il est à noter que le dollar américain recule conséquemment autour des 100 points. Donc de nouveau statu quo de ce côté-là avec un retour autour de cette zone de polarité. Et on a eu les chiffres donc du PIB américain qui sont sortis en dessous des attentes, ce qui peut-être aussi a manifesté un peu ce rebond du côté de la tech, puisque on cherche toujours des domaines sur lesquels s'investir aux États-Unis et il y a bon nombre de participants au marché aujourd'hui qui sont promptes à payer dès lors qu'on a des décotes assez importantes, chose qu'on a pu apercevoir ces derniers temps justement du côté de ce marché des semi-conducteurs. Le gold aussi n'est pas en reste, plus 1%. Alors ça peut faire sourire quand on voit justement des rebonds jusqu'à plus 20, plus 30 selon les domaines, mais on est en train de poser le point bas ici intermédiaire pour le gold, compris entre 3 900 et 4 200 dollars l'once. Ça se passe plutôt pas mal. Côté crypto, on va passer très rapidement puisqu'il ne se passe pas grand chose. 2190 pour le crypto total. On a le Bitcoin autour de 64 650. Toujours au-dessus de la moyenne mobile à 200 semaines, mais toujours cette épée de Damoclès fin d'été. Est-ce qu'on va visiter à minima les 57 000, donc du point bas de fin juin 2026, ou bien va-t-on visiter cette zone autour des fameux 50 000 dollars? La seconde crypto-monnaie du marché, continuons de suivre donc pour Ethereum au pas derrière BTC et a buté récemment proche des 2000 dollars sur sa propre moyenne mobile 20. Ceci étant dit, là aussi, tout ce qui se comporte aujourd'hui basiquement entre 1004 et 2000 dollars est une zone de réaccumulation logique, comme dirait Tradosor sur YouTube. Et c'est là où on arrive dans le dur du sujet avec par exemple un Coinbase qui est lié directement à l'industrie crypto, mais pas à l'IA, au minage ou tout ce qui peut avoir un attrait énergétique direct ou indirect, et qui est à peine à 1%. On passe du côté de Bitfarms, on a un rebond de 33%. On regarde Iren, c'est pareil, le support à 28-29 dollars a été payé par le marché, plus 28%. Cypher, même musique, contact de la moyenne mobile 50, plus 26%. On n'est pas en reste non plus du côté de Riot, qui pareil, paye sa moyenne mobile à 50 semaines, plus 22, quasi plus 23. 21 pour Hut 8 Mining, qui reste bien plus haut perché que les autres, puisque lui, c'était au contact de la moyenne mobile 20 qu'il est en train d'essayer de se sauver. On a CLSK pareillement qui est rebondi de 20%, Hive plus 19, quasi plus 20, et TerraWolf pareil plus 20%, contact de la moyenne mobile 50. Le best-of, elle, si jamais Bitcoin finit sa course autour de 50 000, ce serait de la revoir plus tard autour de la moyenne mobile à 200-300 semaines, entre 6 et 7, 8 dollars. Là, on aurait une belle zone d'entrée pour TerraWolf. Marathon autour de 12 dollars, mais qui reste beaucoup plus dégradée que les autres, donc moins intéressante. Et on en vient aux actions du moment, donc avec des rebonds complètement fous pour notamment SanDisk qui nous prend 24% en séance. Ceci étant dit, là aussi je ne sais pas si la semaine va si bien se clôturer que ça. C'est pas parce qu'à court terme en effet on a un rebond qui est assez stratosphérique que ça va désengager immédiatement la distribution qui était en cours ici. Le best-of pour commencer à payer SanDisk serait un retour potentiel autour de 736 dollars, où nous attend la moyenne Bitcoin Mobile 50. Et pareil, quand on regarde le chemin parcouru depuis les points ici de avril 2025 à peine, au moment des tarifs de Trump à 28 $, on est venu chercher donc pour SanDisk 2340 $, ce qui fait une progression de quasi 8200%. On est au-dessus d'un x90. Donc aujourd'hui, je veux bien qu'il y ait de la volatilité, que les traders comme ça en séance et tout se fassent plaisir, mais hormis ça, qu'est-ce qu'on a de plus à gratter finalement sur ces sociétés une fois qu'elle a déjà produit en un an et demi environ pas loin d'un fois 100 finalement. C'est pareil pour Micron qui réagit au contact de la moyenne mobile 20, 740 $, rebond de 15,64, AMD plus 12, ASML plus 6, Oracle plus 6, Amazon, Tesla qui sont également dans le vert. Et il y en a une qu'on n'est pas mécontent d'avoir payé. Alors je vous l'ai dit quand je l'ai fait, on a mis régulièrement ce support en avant sur la chaîne au moment où ça a été fait, et donc quand il y a des trucs que je ne paie pas comme l'Asie qu'on a analysé ensemble en fin d'émission, et pour autant il y a eu des belles performances ces dernières semaines sur du Nintendo, sur du Tencent, sur du Xiaomi, etc., il y a eu des rebonds assez conséquents pour le coup qu'on surveillait, mais que de mon côté, eh bien, je vous avais fait part de ne pas les avoir pris. Microsoft, au fur et à mesure des dernières semaines, je suis rentré sur le titre. Aujourd'hui, j'ai pas profité de l'intégralité du mouvement puisque comme d'habitude les entrées se font en DCA. Donc là, quand on mesure de mèche à mèche, on est presque à plus 30%. Je crois que ma position de mon côté est désormais à plus 20. Donc ça fait plaisir de temps en temps de voir justement eh bien, l'analyse technique qui fonctionne, qui nous donne un tout petit avantage sur le marché, dans un marché qui a tendance à être bien trop déchaîné justement. Pour au quotidien, naviguer aussi simplement justement que ça en a l'air, c'est bien plus complexe que ça. Et c'est pour ça aussi, je ferai une émission très certainement à part entière autour du sujet prochainement parce que ça me tient à cœur. Je me suis rendu compte au bout de quasiment désormais une dizaine d'années de spéculation que petit à petit, bien le stock picking, de choisir ses propres actions, ça peut être grisant, ça peut être exaltant. On suit les résultats, on suit les réseaux sociaux, on est un petit peu parfois voilà sur des sociétés comme certains le qualifieraient comme un supporter de foot. Et malheureusement, au long terme, ça nous produit régulièrement aussi des contre-performances, des mauvais choix. Donc aujourd'hui, est-ce que pour un particulier, il ne vaut pas mieux être à 80-90% puisqu'on peut toujours faire avec une petite portion du portefeuille du stock picking, mais sur des ETF en mode autopilote, auto-nettoyant, type S&P 500, type MSCI World? La question se pose et on va essayer de documenter ça au mieux pour vous prouver par A plus B qu'au long terme, les particuliers ne sont pas de très bons traders, entre gros guillemets, ce qui fait que le stock picking par essence finalement n'est pas très bon pour les retail. Du côté de la France, une très belle journée pour Schneider Electric, plus 11%. Donc là aussi, on s'approche de l'ATH qui est à 294 €. Elle était en début de semaine à 256 et on était en avril 2025 à peine à 175. Schneider Electric qui a su pivoter là aussi, surtout le data, le cloud, l'IA. Donc on a en plus d'un fournisseur électrique et d'énergie désormais un acteur majeur à la table. Si un jour il y a un crack long terme, eh bien c'est la zone justement de avril 2025 autour de 170-175 € qui fera office d'énorme support long terme pour Schneider. On a une belle performance également, ça nous a été mis en avant sur le Discord, donc je le rentre en watchlist ce jour, bien que fondamentalement ça soit pas un truc qui me parle énormément. C'est BIC, donc de la société qui effectivement fait les stylos BIC et qui rebondit aujourd'hui de plus 9%. On était en novembre 2025 à 46-47 €, on est de retour à 67, et donc tout ce qui se trouve autour de la zone des 70 € est une zone dure pour BIC. Au rayon des vendeurs de pioches et de pelles, on a Amundi qui édite là aussi, on en avait parlé ces dernières semaines, et bien tout ce que vous avez comme produit au niveau boursier qui porte le même nom finalement. Donc aujourd'hui plus 6,40, 94 € en découverte de prix. Là aussi une action de prix qui parle pour elle-même, en 2022 à 41 €, aujourd'hui 94. Alors quand on voit la volatilité du côté de la tech, ça pourrait paraître anecdotique, mais c'est des titres comme ça, comme je les mettrais peut-être pas au même niveau que la fameuse Sainte Trinité que beaucoup mettent en avant, les AXA, les Air Liquide, les Total, les Vinci ou ce genre d'actions qui reviennent très très souvent dans le portefeuille d'un bon père de famille comme on aime à le dire. Mais c'est vrai que eh bien, quand on regarde du côté de MSCI pour les États-Unis, quand on regarde pour Amundi, quand on regarde le Nasdaq en tant que tel, pas l'indice, ceux qui éditent finalement la bourse, on a quand même au long terme eh bien, une croissance tendance qui suit finalement un petit peu ce qui se passe du côté boursier. Et vu que depuis 2020, on a de plus en plus d'utilisateurs sur les brokers et en bourse tout court, vous vous doutez bien que ça fait la part belle à tout ce secteur. On a STMPA également qui rebondit de 6%, bien tassé 6,40 avec une tentative de reprise donc des 45 euros en descente depuis les 70 euros. On avait méché sur le début de semaine à 42. Le best-of, ça serait de le voir quelque part entre 34 et 36 euros pour une zone ici de polarité long terme, 0,618 de Fibo et toutes les moyennes mobiles qui sont paquées. Du côté de nos bons vieux altcoins, il y en a un qui a le mérite d'accélérer à court terme, c'est Uniswap, plus 10%. Je pense, sans trop m'avancer, qu'on préspécule sur l'activation positive du Clarity Act. Alors si ça vient à être entériné, on aura de très bonnes choses également du côté de Coinbase, de Circle, de Hondo, de Uni, de AAV, de Lido, pourquoi pas, tous ceux qui en ce moment ont recouvré pas mal de vélocité finalement, qui nous laissent à penser que le point bas est d'ores et déjà fait du côté des altcoins. Si, à contrario, le Clarity Act n'est pas voté sous une dizaine de jours, ils partent tous en vacances, ça repousse à 2027 à minima, s'il n'y a pas d'autres sujets beaucoup plus importants sur la table d'ici là. Donc attention au court terme. Oui, on a la sensation que certains alts comme ça et dossiers, notamment de la DeFi, ont l'envie d'aller de l'avant, mais c'est de la pré-spéculation sur ce qui pourrait arriver. Et finalement, j'ai peur que le marché soit déçu derrière si justement ça venait à ne pas être voté immédiatement. Pareillement pour Injective, plus 5%, toujours dans ce qui pourrait s'apparenter ici à un double creux, à une tasse séance. On a Lido aussi qu'on avait spoté la dernière fois avec potentiellement un bottom en devenir, mais c'est encore trop tôt pour le dire. Le tout avec une très belle divergence. Plus 4% également pour Hondo, le BNB à 590$. On est dans la contraction finale pour BNB entre la moyenne mobile 200 qui se trouve à 539$ et la moyenne mobile 20 qui se trouve en haut à 610 avec un point pivot entre 660 et 690$ pour BNB. AAV, ça fait des semaines qu'il est bloqué autour de 100$. C'est un peu le statu quo, mais on est un petit peu dans le même mood que du côté de Uniswap. Je l'ai vu dans l'émission de Vincent, quand bien même je l'avais déjà dans ma watchlist pour Sui, et effectivement ça a été analysé dans le dernier Cryptost briefing. On a Sui pour du long terme qui est vraiment sur une trend comme ça, qui prend tous les points les plus bas. Donc à partir du moment où on est sur un point qui paraît raisonnable entre guillemets, c'est sûr que le ratio risque récompense peut s'avérer favorable. Après, j'ai pas du tout suivi ce qui s'est passé sur la blockchain Sui, les fondamentaux, l'action de prix contre le dollar me paraît pas si horrible au vu du bear market, mais il va falloir beaucoup plus creuser pour se positionner. On clôturera avec l'Asie, le Nikkei plus 4%, 63 400. On est pile poil dans le mood de ce qui s'est passé du côté du Nasdaq, perte du support, perte de la moyenne mobile 20, et là on essaie in extremis de sauver les choses. Donc on a encore que jeudi, ça aurait été le vendredi, souvent on essaie de sauver la semaine, de sauver les meubles. Là aujourd'hui c'est trop tôt pour le dire, demain il n'y aura pas d'émission et on fera le débrief bien entendu de tout ça samedi. Nintendo qui bien entendu poursuit sa hausse, plus 2%, alors bien entendu oui ou non, mais c'est une action qui a eu son point de défense ici autour de cette zone il y a 3-4 semaines. Pareil du côté de Tencent qui prend 1,16. Attention toutefois, on a toujours les taux qui sont hauts par rapport au Japon, et d'ailleurs j'ai oublié de vous en parler en début d'émission, mais on a également toute la problématique pour les États-Unis. On a le 30 ans qui, même s'il recule un petit peu cet après-midi, fin de journée, le 30 ans est à 5,21. On était venu chercher 5,25 quasiment, et le 20 ans est à 5,22 avec un point dur autour de 5,38 qui là aussi permettrait de rentrer pour le marché obligataire dans son propre bull run, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, à court terme, c'est pas super ragoûtant d'avoir des taux qui sont aussi hauts et d'avoir une Fed qui, au vu justement du discours précédent de Jérôme Powell, et il y avait quand même une communication un petit peu à l'ancienne. Alors c'était une personne beaucoup plus mûre, beaucoup plus âgée que désormais Kevin Warch, que vous avez très certainement déjà vu passer du côté des réseaux sociaux, etc. Et qui lui est dans un mood beaucoup plus moderne, mais aussi beaucoup plus flottant. Il a envie d'imposer son propre rythme tout en disant « Ok, ben pour l'instant on ne sait pas trop, donc on fige un petit peu la situation au niveau des taux ». mais en n'omettant pas la possibilité, si l'inflation ne se comporte pas bien, d'ici cet automne, maximum fin d'année, d'une potentielle hausse de taux. Et ça, c'est vraiment ce que les marchés ne jouent pas. Ils anticipent, eux, à contrario, potentiellement d'ici 2027, des baisses de taux. Donc on a de nouveau cette petite épée de Damoclès au-dessus de la tête qui fait qu'aujourd'hui, certes, une journée complètement folle du côté des semi-conducteurs et même Microsoft, quand j'ai vu comme ça des 15, 20, 30% en séance, je me suis dit obligé de faire une petite émission, mais attention à l'euphorie court terme qui pourrait être mouchée là aussi par des saisonnalités qui pourraient être mouchées malheureusement par une saisonnalité août et septembre, comme vous le savez. Ça reste de la statistique, c'est de l'historique pour le S&P notamment et sur la deuxième année donc de la présidence des États-Unis autour des midterms, qui a tendance malheureusement à être une période un petit peu plus compliquée, le tout avec des indices qui justement se cherchent un petit peu, et encore et toujours des investisseurs qui, dès qu'il y a des prix un tout petit peu plus attractifs, alors du côté de la tech pour le Nasdaq c'était déjà un moins de 10% bien tassé, mais voilà, on n'a pas vraiment le temps de se positionner, de réagir comme si le marché était vraiment crispé sur lui-même, très acerbe et qui ne laisse que très peu d'opportunités pour rentrer, jusqu'au moment où ce momentum et cette façon de faire va finir par craquer. Est-ce que ça va être maintenant? Est-ce que ça sera beaucoup plus tard? À vous d'en juger. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve samedi. Ciao, ciao.